Ah. Bien. Alors, je crois on avait lu le texte du numéro 3. Non, 2. Bon, Michel. C'est 2 ou 3?
2.
2, ouais. On est quand même un petit peu obligé de le relire un peu. Donc, on est maintenant passé au passage suivant, Haaretz Hayta Tohu, c'est-à-dire à la moitié du deuxième passage. La terre était dans un état qui est appelé Tohu. C'est un état indistinct. C'est quelque chose, un peu chaotique, quelque chose qu'on ne sait pas, on sait pas vraiment à quoi on a affaire. Quand on essaye de le nommer, on s'aperçoit très vite, ben non, c'est pas vraiment ça, on cherche autre chose, non, c'est toujours pas ça, c'est pas clair du tout. Alors, Rav Rehia, ici, il a ouvert de la manière suivante. Il a ouvert avec de nouveau, comme dans le chapitre précédent, a ouvert avec un passage qui dit Gam bimalalav itnaker nahar. Et on peut l'expliquer, enfin le traduire de plusieurs manières. On peut dire que si je considère que maalalav, ce sont les, on peut dire les comportements, on peut dire les comportements un peu étranges, les stratégies, etc. Le jeune, et ce huit naker. Naker, c'est la chaîne nochri, si vous voulez, étranger. Il se rend étranger, mais on peut aussi dire, ça peut aussi se lire, très souvent les mots, veut dire des choses opposées. Ça peut aussi dire que on le reconnaît dès le jeune âge, on sait à qui on aura affaire, on sait comment il va évoluer. Alors, ensuite, ce Rav Brechia, après avoir énoncé ce verset avec lequel il est censé ouvrir le sujet, il dit Adei paga atikat kuvaya. On parle ici de la terre qui produit des épines avant même que, si vous voulez, avant même que la terre produise quoi que ce soit, avant que les fruits arrivent, etc. Il y a déjà, vous voulez, déjà il y a un problème. Déjà, les épines sont déjà là. C'est une première chose. On ne sait pas exactement ce que, d'ailleurs, ceux qui ont la traduction en français, je m'aperçois que ils n'ont pas rendu compte du tout de cette première partie. Passe tout de suite à la suite. Donc, en fait, c'est ce que dit le. Moi, j'ai la version que j'ai dans le Midrash standard. C'est ce que le Navi dit. Plus tard, il va dire effectivement. Raiti ta'aretz v'hineh tohu va-vohu. Donc voilà, la terre, je l'ai vue, elle est tohu va-vohu. Bon, c'est un peu ce qu'on avait déjà vu au début. Voilà, ça c'est encore la chose qu'on a vue en dernier. Du premier paragraphe, si vous voulez. Rabbi Abbaou, Rabbi Yehuda bar Simon. Maintenant, le deuxième, il y a deux maîtres qui parlent. Rabbi Abbaou Amar, Machal le Melech, c'est Kanalo Shnei Avadim. Il s'agit d'un roi qui s'est acheté deux esclaves. ensemble. Et à la limite, deux esclaves très semblables, on ne peut pas dire des jumeaux, mais a priori des esclaves pour lesquels il a payé le même prix pour chacun, il les a achetés avec un seul acte de vente. C'est, ils ont tout fait ensemble, en quelque sorte. Toute la trajectoire, tout le devenir de ces esclaves qui deviennent des esclaves de cette personne, de ce roi, c'est, tout ça, ça s'est fait ensemble. Donc, on pourrait s'attendre, ils s'attendent en tout cas, à être traités de la même manière. Or, voilà que le roi dit, il décrète, que Alechad Gazar Sheye Nizon Mi Timayon, que Alechad Gazar Sheye Yogia Beoche. Donc, il décrète que l'un va être nourri aux frais du palais, et l'autre, en fait, il devra travailler pour manger. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre pasouk? C'est que le Midrash dit que, du coup, le deuxième, le Yeshavlo, Oto, le second, donc le deuxième, Utoé ou Bohé, il est dans cet état de incompréhension totale, de désolation, il est brisé complètement. Parce qu'il se dit, Shnenu Loni Echat, Timi Echat, Zenizon de Timayon, Vani, Imeni, Yagea, Eliochen. Et moi, si je travaille pas, je mange pas. Et lui, il n'a rien à faire. Pourtant, on devrait être traité exactement de la même manière. On a été achetés ensemble. On a été achetés au même prix, etc. Il est atterré, littéralement. Et il est complètement déboussolé aussi. Il comprend rien. Il est face à quoi? C'est complètement absurde, cette différence. Alors, le Rabbi Abaou, il dit, bon, ben, c'est ça, justement. Car, c'est la même chose. Yashva ha'aretz, toa uboha. La terre, quand elle a été créée, elle était également dans cette situation-là. Elle aussi, elle était dans tohu vabohu. Elle a dit, ha'elyonim v'atachtonim nivrou b'vatachat. Le haut et le bas, en quelque sorte, le ciel et la terre, ont été créés ensemble. Et, quand ils ont été créés, Nizonim, Mizivashchina. C'est-à-dire que les Elyonim, ceux d'en haut, ils sont nourris de l'éclat de la présence divine. Et les Tartonim, Imenam Yigeim, Enam Ochlim. Et les créatures d'en bas, si elles ne font pas d'efforts, si elles ne travaillent pas, ne mangent pas. Alors, ça a été annoncé, on avait annoncé qu'il y avait deux maîtres, Rabbi Abaou et Rabbi Yehuda Bar Simon. Ça, ce machal avec les deux esclaves, mâles, c'est Rabbi Abaou. Rabbi Abaou qui dit ça, qui présente cette situation. Donc, pour lui, la terre, quand on dit que la terre est dans cet état de tohu vavohu, c'est que la terre ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle ne comprend pas comment se fait-il qu'il y ait un traitement différent du ciel et de la terre. Incompréhensible. On a une petite question quand même, c'est d'où, où est-ce qu'on voit dans le texte quelque chose de ce genre-là? Le texte dit simplement, au début donc, Barishit bara Elokim teshamayim et haaretz, et puis ensuite, on nous dit, v'haaretz atato vavohu. Où est-ce que la terre a vu une différence de traitement? Pour qu'elle en soit à ce point bouleversée. Elle dit, l'éonyme, oui, voilà, mais on n'a pas encore... La vérité, c'est qu'il n'y a pas encore d'éonyme et de tarponyme pour l'instant. Il y a le ciel et la terre, mais c'est quoi? C'est pas... Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Bon, la terre, elle est... Voilà, elle comprend pas ce qui se passe. C'est comme si la Terre, elle anticipait ce qui va être dit par la suite. Bon, être dit sur le reste de la création. Bon, ça c'est Rabbi Abbaou. Rabbi Yehuda Bar Simon, qui est présenté comme l'autre co-auteur de ce Midrash, lui, il prend, semble-t-il, exactement la même chose. Machal le Meler, Shekanalo, Shteshpachot, Shtehen Beoni Achat. Lui, ce sont deux servantes. Avant, c'est des esclaves. Maintenant, c'est deux esclaves mâles. Maintenant, des esclaves femelles. Ce sont des femmes. Sur l'une d'entre elles, là aussi, il décrète qu'elle ne bougera pas du palais. Elle n'a pas besoin de bouger du palais. Elle sera donc toujours une princesse au palais. Alachat Gazar Tirudin. Et l'autre, bien l'autre, elle est... Elle va être obligée de se débrouiller toute seule. Bon, c'est la deuxième princesse, la deuxième servante, hein, qu'elle a gagné sa vie à la limite, il s'en occupe pas vraiment. Elle se débrouille. Alors, il m'a viré le roi. Et alors, à ce moment-là, de nouveau, alors qu'est-ce que ça a à voir avec nos versets? Alors, lui, il dit que le lien avec le verset, c'est que la terre, de la même manière, la terre, effectivement, elle est dans Tohu Vabohu. Et cette fois-ci, elle fait bien une différence entre Elyonim et Tartonim. Il dit, je comprends pas, ils ont été créés ensemble. Et voilà tout à coup que les Elyonim Chayim, les Elyonim vivent, les Tartonim meurent. C'est pour ça qu'elle est Tohu Vabohu. Bon, donc c'est presque la même chose, sauf que pour Rabbi Abbaou, le problème c'est devoir travailler ou ne pas travailler, et pour Rabbi Yehuda Bar Simon, c'est vivre ou mourir. Et puis, il y a une troisième intervention de ce rabbi Tanchuma, qui d'une certaine manière, qui n'est pas annoncé au début du Midrash, mais qui est là, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois dans le cas précédent. Lui dit, c'est le Ben Melech. Il s'agit du prince. Le prince était Yashen al-Gabé Arissa. Il est encore dans son berceau. Le prince est dans son berceau, il a une nourrice. Vaïta menekato toha uboha. Et sa nourrice, elle est en train de dans la désolation, dans l'errance, dans la non-compréhension, totale confusion. Et lama, pourquoi? Shaita yodat, elle savait. Shi atida litol et shela mitachat yadav. Elle savait, elle sait déjà que cet enfant qui est là, le prince, il est dans son berceau, mais elle sait très bien que elle va en pâtir à cause de lui. Kach tzavta haaretz shi atida litol et shela. De la même manière, la terre, elle pleure, elle se lamente, parce qu'elle sait qu'elle va être punie à cause de l'homme. C'est marqué, Arura Adama Bavurer, בעבורך. לפיכך, והארץ הייתה תוהו ובוהו. Donc, elle sait que quand Adam va fauter, qu'Hachem va donner à tous les personnages de la faute, l'homme, la femme, le serpent et la terre va être punie à cause de l'homme. Et donc, elle voit déjà, elle se projette, elle voit déjà qu'elle va être punie à cause de l'homme. Alors, donc ici, l'homme est vu ici comme dans le Midrash en question, il est vu comme étant le prince. On ne sait pas la nourrice du prince, c'est la terre. Et la terre pleure. Ici, on explique, Tohu Vavohu, c'est, elle est désolée, mais dans le Machal, elle pleure. Elle pleure. Enfin, c'est pas vrai, là aussi, c'est marqué Tohu Vavohu, elle est aussi complètement, non, c'est une erreur de ma part. Elle ne pleure pas. Elle est aussi Tohu Vavohu. Elle aussi, elle est complètement désolée parce qu'elle voit qu'elle va être punie à cause de l'homme. Donc, lui aussi, Rabbi Tanchuma, il prend aussi un machal. Et dans le machal, le machal, il met en scène le prince, un peu le roi, et la nourrice. Et puis, c'est au vu du futur que la nourrice est dans la désolation et dans cette errance, dans la non-compréhension, dans l'absurde. Alors que dans les deux précédents, c'est pas présenté comme étant un futur explicitement. Elle va, c'est simplement la terre, elle s'aperçoit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle comprend très bien que les Elyonim vont profiter des Mizivashrina et ceux d'en bas, ils vont devoir travailler, ou bien effectivement, que ceux d'en haut vont vivre et ceux d'en bas vont mourir. C'est aussi un futur, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond directement, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'abord les Elyonim? Est-ce que les Elyonim, c'est quoi? C'est les oiseaux? Non, les oiseaux, a priori, même les oiseaux, ils doivent aussi chercher leur nourriture. Donc, pour le problème de la terre dans la première version, c'est le fait qu'il va falloir travailler. Alors que dans la deuxième version, le deuxième machal avec les servantes, son problème de la terre ici, c'est que il y a un problème de vie et de mort. Donc pour lui, le problème de la mort. Alors, si on regarde les commentaires, ici, le Etz Yosef, effectivement, il dit que le problème de la terre, c'est que, ou bien, cette différence, donc où est-ce qu'il y aurait cette différence, et alors que initialement il n'y a aucune différence. Et son problème, c'est qu'il va falloir travailler. Le premier problème, les uns travaillent, les autres non. C'est-à-dire que, voilà, travailler alors que l'autre, là, il n'a pas besoin de travailler. Il est payé, il est nourri aux frais du palais. C'est seulement ça. Voilà. Alors que dans le deuxième machal, la première servante, elle vit au palais. Pas seulement qu'elle est nourrie, pas question seulement de nourriture. Elle vit au palais. Elle n'a pas besoin d'en sortir. Alors que les autres, enfin, ceux d'en bas, la deuxième princesse, si vous voulez, elle dit, je comprends pas. Moi, il m'a chassé du palais, quoi. Moi, je dois me débrouiller. J'étais chassé du palais, point barre. Alors, lui veut dire que dans le deuxième cas, quand il dit que les tartonimes metim, lui traduit, il dit afshia tzadikim began Eden, bien qu'effectivement les tzadikim dans le monde d'en bas, ils vont au Gan Eden. Mais al-kolze, malgré tout, chai chai hu, yodcha, velo ametim yaluka. Donc, ceux qui sont vivants, ils peuvent dire la louange d'Hachem. Et les autres, les métim, ils peuvent pas dire la louange d'Hachem. Et donc, le problème, c'est la mort. Ça veut dire que, pour lui, même s'il mange, même s'il travaille et qu'il mange, effectivement, c'est Mache Ochlim Aliede Yegia ou Ma'ala Shenan Ochlim Na'amad Kisufa. C'est-à-dire de lorsqu'on travaille et que on peut, grâce à son salaire, on peut manger, le gros avantage, c'est que c'est pas un Na'amad Kisufa, c'est pas le fameux pain de la honte, c'est-à-dire le pain qu'on obtient sans avoir travaillé, justement, puisqu'ils ont travaillé. Et en bas, c'est les créatures d'en bas, elles meurent. Alors, tout le monde ne meurt pas, il y a le Gan Eden, mais malgré tout, ils meurent, et parce qu'ils meurent, ils vont plus pouvoir dire la louange d'Hachem. C'est ça le problème pour la deuxième lecture. Donc, on va essayer de commencer par la fin. Commencer par la fin, c'est-à-dire commencer par Rabbi Tanchuma, qui lui voit la terre comme étant la nourrice de l'homme. Et finalement, elle va être punie à cause de l'homme. Et donc, elle ne comprend pas. On peut se réjouir de ce prince, mais ce prince-là est en fait encore un bébé, en fait. Il n'a encore rien fait de mal, etc. Mais finalement, elle est totalement à son service, sa nourrice. Elle se met à son service. Et qu'est-ce qu'elle a comme récompense? C'est qu'elle va payer pour les fautes que ce prince va faire par la suite. Alors, en quoi est-ce que la terre est la nourrice? Alors, bien sûr, la terre est nourricière. Mais bon, c'est un produit. L'homme va travailler sur. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que la terre, ici, elle parle d'être punie à cause de l'homme. Donc, elle est punie à cause de l'homme qui a fauté dans le Gan Eden. La faute de l'homme, elle était dans le Gan Eden. Il est dans le Gan, il a un interdit de manger d'un certain arbre, détruit un certain arbre, il transgresse, et la terre qui jusqu'alors a produit tout ce que l'homme, dont l'homme devait, avait besoin, sans que l'homme travaille, dans le Gan Eden, l'homme ne travaillait pas. On dit qu'il devait, le Ovdo, le Chambeau du Gan Eden, c'est pas vraiment un travail. Il y avait des choses à faire, des choses à ne pas faire, mais c'est tout. C'est pas un travail. Mais, au contraire, la terre fournissait à l'homme directement tout ce dont il pouvait avoir envie, pour avoir besoin ou envie. Donc, elle a parfaitement joué son rôle. Et d'une certaine manière, elle est la nourricière de l'homme, puisqu'elle lui donne à manger. Et puis, sans qu'on comprenne pourquoi, tout à coup, elle voit qu'elle va être punie à cause de lui. Et c'est ça l'état de tohu vavohu. Est-ce qu'on pourrait traduire tohu vavohu par absurde? On est dans le monde de l'absurde. Elle a fait que du bien, cet homme, et cet homme, il a fait du mal, et du coup, elle va être punie. Et le texte dit clairement qu'elle est punie à cause de lui. Mais quand tu nourris quelqu'un, tu deviens responsable, en quelque sorte, de ce quelqu'un. S'il se conduit mal, il va être puni à cause de lui. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une situation totalement absurde? Elle lui a fait du bien, lui fait du mal par elle, mais pas spécialement à elle, fait du mal, transgresse l'ordre des ordres d'Hachem, et voilà tout à coup qu'elle est punie à cause de ça. Comment comprendre cette situation? C'est incompréhensible. C'est à la fois injuste, tohu vavohu, c'est désolant, complètement. Et c'est, ça pose des vraies questions. Dans quel monde est-ce qu'on est? Si des choses pareilles peuvent arriver. Donc, on nous explique pourquoi la Terre est dans cette situation. Abraham Kuma, il dit, elle est dans cette situation-là parce qu'elle voit que d'avoir, disons, première analyse, d'avoir simplement nourri l'homme parfaitement, et essentiellement, ce qu'on pourrait dire, c'est que elle l'a nourri comme... comme bébé, en fait, même si, en tout début, on peut peut-être imaginer que si elle est la ménéquette, c'est la femme, c'est celle qui va nourrir l'enfant, sa nourrice, mais elle va s'en occuper par la suite, elle est aussi son ultimement, elle devient son éducatrice. Les gens qui ont une nourrice, souvent, ils restent complètement attachés à leur nourrice. Et peut-être que la nourrice, elle devient sa référence. Bon, là, en l'occurrence, c'est encore plus fort dans la mesure où cet Adam-là, il n'a pas de mère. Il n'a pas non plus de père en tant que tel. Quelque part, il y a un roi qui l'a... Voilà. C'est sûr que c'est présenté l'homme comme étant Ben Melech, fils du roi. Bon. Alors c'est évidemment, c'est comme ça pour dire que c'est le roi qui décide. Celui qui est le roi qui décide de tout. Donc c'est lui qui va décider qu'elle va être punie, la terre, à cause de la mauvaise conduite de son fils. pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est la faute du père? Pourquoi ce serait la faute de la nourrice? Il a mal tourné. Pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est la faute de la nourrice? Ou alors, est-ce que la terre peut être maudite sans que ce soit sa faute? Est-ce que ça veut dire que la terre va être maudite? Concrètement, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par le fait que la terre ne pourra plus produire sans le travail de l'homme. Sans le travail de l'homme, elle va produire des ronces. C'est ça la Aurora. Elle est punie, c'est-à-dire en fait, on ne lui donne plus la possibilité de donner tout ce qu'elle veut donner. C'est ce que nous disons dans le deuxième paragraphe du chemin. Si vous vous conduisez mal, alors la terre ne donnera plus ce qu'elle peut donner. Et puisqu'elle ne va plus donner ce qu'elle peut donner d'elle-même, il faudra que l'homme travaille pour qu'elle donne ce qu'elle donnait d'elle-même avant. Et c'est comme si elle va se trouver, elle, affaiblie, la terre. Et d'une certaine façon, on peut dire que le travail de l'homme sur la terre, l'homme va devoir travailler la terre. Il va devoir, d'une certaine manière, faire une violence à la terre. Il va falloir arracher les ronces et puis les remplacer, en quelque sorte, par de la vraie nourriture, par quelque chose de consommable. Il faudra qu'elle donne du blé, cette terre. Et donc, pour ça, il va falloir lui faire une certaine violence à la terre. Alors qu'avant, non seulement elle donnait du blé, mais elle donnait le pain lui-même. C'est-à-dire, dans l'Angan Eden, il ne recevait pas le blé. Il recevait les croissants, il recevait les petits pains.
Mais est-ce que par ailleurs, on ne dit pas que la terre s'est révoltée contre son rôle avec l'arbre fruit?
Oui, mais justement, on aurait pu dire que la terre est fautive à cause du problème de l'arbre fruit au lieu de l'arbre fruitier. Enfin, l'arbre fruitier au lieu de l'arbre fruit. Mais c'est pas ça qui est dit. C'est aussi marqué clairement que la terre est Arura Bavurecha, à cause de toi. C'est pas à cause d'elle-même. Donc il n'y a pas justement cette solution de dire qu'en réalité c'était dû au fait qu'au lieu de produire ce qu'Hachem lui avait demandé, c'est-à-dire un arbre fruit, elle a produit l'arbre fruitier, c'est-à-dire la différence entre un arbre fruit et un arbre fruitier, comme on l'a vu souvent, c'est le problème du temps. Pas parce que si l'arbre est lui-même fruit, alors on peut manger directement, manger l'arbre. Mais si on doit attendre que les fruits mûrissent, il faut que ça fasse des feuilles, des bourgeons, etc., et des fleurs, des fruits. C'est-à-dire il va y avoir du temps. Et le temps c'est le chametz. Le temps c'est justement la possibilité que ça tourne mal. Ça, c'est la faute de la terre. Elle a fait une faute, si on peut parler comme ça, bien que ce soit un peu difficile à comprendre. Mais c'est pas pour cela qu'elle est, c'est pas pour ça qu'elle pleure, et c'est pas pour ça qu'elle est complètement déboussolée, parce qu'à la limite, si elle avait été sanctionnée pour ce qu'elle a fait, alors elle aurait pas été complètement déboussolée. Elle aurait su pourquoi elle est sanctionnée. Mais ici, elle est sanctionnée à cause de l'homme. Qu'est-ce qu'elle a fait pour cet homme? Elle la nourrit. elle lui a fait que du bien. C'est pas lui qui lui fait du mal, mais à cause de lui, elle souffre. Donc, on est vraiment dans le, a priori, dans une forme d'absurdité. Et le tohu-va-bohu, c'est une forme d'absurdité. Qu'est-ce que c'est l'absurdité? C'est quand on comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se passe des choses qui n'ont pas de lien avec celui qui est touché par ces choses. C'est quoi? Ben c'est à peu près ce qui est écrit dans le parchat de Kokotai. Quelque part, si vous décidez d'aller, dit Hachem, vous allez avec moi, Bekeri, si vous dites que ce que moi je vous envoie comme message, vous prenez ça en disant que c'est pas un message, mais c'est dû au hasard, ou c'est dû à des cycles, des rythmes naturels, etc. Et donc vous ne voulez pas lire ça comme un message, alors je suis obligé de donner un tour de vis supplémentaire pour que vous soyez obligé de le voir comme un message. Et si là non plus vous l'entendez pas, ben ça sera encore pire. Simplement là-bas, dans Bogota, on dit, d'accord, la garantie c'est que finalement je vous détruirai pas complètement parce que j'ai promis à Abraham, Israël et Jacob que non, vous ne serez pas détruit. Mais autrement, vous méritez d'être détruit. Mais ça, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si vous dites que c'est pas significatif, vous voulez pas entendre le message, alors je vais vous envoyer effectivement des choses qui sont sans commune mesure avec votre conduite. Alors effectivement, le mida keneg et mida ici, c'est qu'il n'y aura pas de mida keneg et mida. C'est-à-dire vous ne pourrez pas remonter de ce qui vous arrive et comprendre le pourquoi ça vous arrive. Ben, c'est bien ce qui se passe avec elle, avec la Terre. C'est incompréhensible. Pourquoi ça m'arrive, ça? Tout va vous, ça veut dire, ben, on ne peut pas. On cherche une explication, il n'y a pas d'explication. Et alors, si maintenant, je vais regarder les cas précédents, les explications précédentes, qu'est-ce qui se passe? Là, dans les deux explications, la Terre, elle-même, la Terre dit, à ce moment-là, elle dit, mais c'est incompréhensible. C'est pas normal. C'est pas normal parce que il y a une espèce d'injustice de base. Les Elyonim, ils ont pas besoin de travailler, ou les Elyonim, ils profitent de Zivashrina, et ils sont toujours en possibilité, donc, de dire la louange d'Hachem. Et les Tartanim, ils vont mourir. Donc, quand on est mort, on ne peut pas dire la louange d'Hachem. Donc, qu'est-ce que c'est que cette injustice? Qu'on soit esclave ou servante, c'est-à-dire, effectivement, le monde est au service d'Hachem. D'accord, le roi, il a acheté le serviteur ou la servante. Ça veut dire que, a priori, toutes les créatures sont au service d'Hachem. Le monde a créé Hachem a créé un monde. Qu'est-ce qu'il veut de ce monde? Il veut que, dans ce monde, on le reconnaisse comme le créateur. Les créatures sont invitées à reconnaître Hachem comme le créateur. Et comment est-ce qu'on exprime qu'on le reconnaît comme le créateur? En disant sa louange, finalement. Et donc, être en situation de ne pas pouvoir dire sa louange, parce qu'on est mort, c'est la deuxième dans l'histoire des servantes, parce que le tartonyme en bas, on meurt. Alors, ça sert à quoi de créer un monde pour que les créatures disent la louange d'Hachem, et ensuite les mettre dans une situation où ils ne peuvent pas la dire, cette louange? C'est incompréhensible. Et puis, dans la version d'en haut, la version des avadim, des esclaves eux-mêmes. Alors, ça veut dire quoi? Ceux d'en haut, quand les Elyonim et les Tartonim, ils ont tous été créés à la même manière, Et puis tout à coup, voilà que les uns profitent de l'éclat de la Shrina, et les autres, s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Ici, on a quoi ici? Qu'est-ce que c'est cette situation de bénéficier de l'éclat de la Shrina? Bénéficier de l'éclat de la Shrina, c'est la situation de Olam Haba. Dans Olam Haba, on va bénéficier, on sera en situation de bénéficier de l'éclat de la Shrina. Les Elyonim, ils bénéficient de cet éclat de la Shrina sans avoir jamais rien fait pour cela. Ils sont tout de suite balancés dans Olam Haba. En d'autres termes. Les Elyonim, ils sont dans Olam Haba. Les Tartonim, eux, s'ils ne travaillent pas, alors ils n'accéderont pas au Olam Haba. Pour les Tartonim, le Olam Haba, il n'est accessible qu'à la suite du travail. Il faut travailler. Vous voulez manger, ça veut dire vous voulez profiter, il faut travailler. Alors, c'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que... Il y a donc, dans la première lecture, interprétation, il y a la différence entre être directement dans Olam Haba ou n'arriver à Olam Haba à partir d'un certain travail. Et la terre, elle trouve ça anormal. Elle dit, mais pourquoi nous, on devrait travailler? Et là, ici, on pose un grand problème. On pose le problème de Naama de Kisufa. D'abord, ça veut dire quoi? Les Elyonim, ils sont nés de la Ziva Shrina. Mais, en fait, n'ayant pas travaillé pour l'obtenir, ce qu'ils ont, ça s'appelle Naama de Kisufa. C'est le pain de la honte. Le Naama de Kisufa, c'est le pain de la honte. C'est le pain qu'on donne à quelqu'un, et en lui donnant son pain, vous lui donnez à manger, mais en même temps, vous lui faites honte, parce que il ne s'assume pas. C'est pas lui. Quelque part, on lui a donné quelque chose, et c'est toujours difficile de recevoir. Quelque part, c'est une situation de dépendance. Et ce qu'Hachem a fait pour les hommes, pour les créatures d'en bas, c'est nous, en fait. C'est que, effectivement, on ne mange que si on a travaillé. Mais si on a travaillé, ce qu'on reçoit, c'est un salaire. Et par conséquent, c'est le chesed maximal. C'est-à-dire qu'en fait, la terre, elle est complètement dévastée, etc. Mais elle ne se rend pas compte. Il faudra qu'elle comprenne ça après. Mais elle ne se rend pas compte qu'en réalité, l'obliger à en passer par là, c'est pouvoir lui donner ce qu'Hachem voulait lui donner de toute manière, mais il le lui donne de la façon la plus généreuse possible, la plus chesed possible, puisqu'il lui demande de travailler pour l'obtenir. Alors que les créatures d'en haut, elles l'ont directement. Mais les créatures d'en haut, elles ont... C'est un pain de la honte, quoi. Ce qu'elles mangent, vivre de l'éclat de la... son vrai sens, c'est d'y arriver par nous-mêmes. Et on parle de créatures qui y sont d'emblée, mais sans avoir travaillé. Et peut-être que ces créatures-là, elles peuvent le supporter, mais que nous, créatures d'en bas, nous qui avons une notion de honte, etc., que les anges et autres n'ont pas. Alors, eux, effectivement, ils peuvent en bénéficier, mais nous, et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on n'est pas créé comme eux. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le ciel et la terre ont été créés ensemble. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas la même trajectoire? C'est ça qu'elle ne comprend pas. Ça, le côté, semble-t-il, absurde. Parce que c'est dû à rien du tout. D'accord? On paye l'eau. On a la même valeur. Et puis, mais à la limite, on n'est pas traité de la même manière. Parce que finalement, être en haut ou être en bas, être tartonyme ou lénionyme, ben ça fait toute la différence. C'est-à-dire, quelque part, d'avoir été placé en bas, ça va obliger à s'élever. Avec ceux qui sont en haut, ben, ils y sont là. Ils sont... Il n'y a pas de dynamique dans les lionymes. Les gens, les anges, ils sont, on dit, dans Hazal, disent, dans le Navi, ils disent que Hachem dira aux hommes, « Natati lechem malchim » Je vais vous donner des moyens de vous déplacer parmi ceux qui sont immobiles. Les immobiles, ce sont les anges. Les anges et toutes les créatures sont immobiles. Parce qu'elles sont ce qu'elles sont, rien d'autre. Il n'y a pas d'évolution. Elles ne peuvent pas s'élever. Elles sont à une certaine hauteur. Elles vont dire la louange d'Hachem. Mais elles ne peuvent pas imaginer monter, s'élever, pour dire mieux la louange d'Hachem. Alors, le tartonyme, effectivement, il faut travailler. Mais grâce à ce travail, parce qu'on est en bas, quelque part, et qu'on a la possibilité de s'élever, c'est une richesse, c'est une perfectibilité de... Donc, on est dans une certaine dynamique par rapport à l'immobilité des créatures célestes.
Mais, excusez-moi, là, vous parliez tout à l'heure d'incohérence. Hachem a créé ensemble l'en haut et l'en bas. Et là, on est en train de dire que l'en bas se plaint. Mais en réalité, c'est assez incompréhensible, puisque c'est Hachem qui a voulu créer cette différence, en attribuant à chacun un rôle, tout est, si je peux dire, clairement établi, clairement noté dans les premiers psukim de Bereshit, et le rôle attribué à la terre, c'est celui, donc, comme c'est écrit, hein, l'homme doit remplir la terre, l'assujettir, et Hachem dit... Je vous ai donné l'herbage produisant semences, se trouvant sur la surface de toute la terre, et tout arbre portant un fruit, produisant une semence, etc., etc. Donc ce sera pour vous votre nourriture. Donc l'homme et l'en bas et la terre a un rôle qui lui a été attribué par Hachem. L'en haut, c'est le rôle de l'en haut. Où est le... Il y a quoi? C'est une envie? C'est une jalousie?
Non, mais vous avez pas tenu compte de ce que dans les deux introductions, dans les deux cas, on met l'accent sur le fait que les servantes ou les esclaves ont été achetés en même temps, sous le même contrat, pour la même valeur chacun. Donc, ce qu'elle comprend pas, c'est qu'il n'y a pas encore eu de distinction. Mais tout à coup, Hachem a introduit une distinction. Il a introduit cette distinction, comment? En disant que, voilà, ouais, je comprends pas. Tout à coup, moi je suis en bas et eux sont en haut. Mais d'où elle vient cette distinction? Puisque il n'y a pas de distinction au départ. Il n'y a aucune distinction au départ. Comment se fait-il que les uns évoluent comme ci et les autres évoluent comme ça? Ils ont tous été créés de la même manière. Mais si vous laissez, on peut continuer la question. Les êtres humains, comment se fait-il qu'il y a des êtres humains qui tournent mal? Esav et Jacob, ils viennent du même endroit. Ils viennent a priori du même utérus. Ils ont le même père, la même mère. En, dans le Passouk, c'est marqué Vaïk de l'eau à Néarim. Il semble que jusque-là, jusqu'à la Bar Mitzvah, ils ont été éduqués de la même manière. Et ils divergent complètement. C'est possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça vient, cette divergence?
Rav, oui. est-ce qu'on peut dire que c'est aussi la même façon qu'un malar n'a pas de Yetzerara? Est-ce qu'on peut dire que, comme l'homme ayant un Yetzerara, on peut dire que la Terre a son Yetzerara?
La notion de Yetzerara, elle existe sûrement chez les hommes. C'est une nouveauté. Mais, ça n'existe pas.
Mais est-ce...
Ça n'existe pas en dehors des hommes. Alors là-bas, on pourra dire effectivement, mais ça, justement, la question se pose. Et là, elle va venir, la question, tout de suite, n'est-ce pas? Quand Jokou, il a créé Yaakov et Esav, et dans le ventre de leur mère, ils sont déjà séparés. On passe devant un temple idolâtre, Esav qui veut sortir, on passe devant un Beth Amidrash, c'est Yaakov qui veut sortir. Qu'est-ce que c'est, ça? Deux embryons. A priori, la description qu'on en fait, c'est pas des vrais jumeaux. Mais enfin bon, ils sont présentés comme des jumeaux dans la Torah. Donc, si vous voulez, ce que dit la Terre, c'est que dans l'état actuel, dans la situation du deuxième verset de la Torah, la Terre, elle voit, si vous voulez, le Rabbi Tanchuma, il nous a un peu soufflé quelque chose. Il dit que pourquoi est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce que la Terre, elle est dans cet état de tohu vavohu? Parce que, car Tsafta Haaretz, elle a vu encore la Terre. Atida Litol, elle a vu son futur. Donc c'est possible que lui, il a explicité les choses. Mais là, c'est la même chose, peut-être. Elle voit comment elle peut se plaindre. Comment elle dit que... Elle dit, même si je regarde pas vraiment le futur, l'autre, le dernier, il va dire, ça vient d'un regard sur le futur. Mais elle tient compte, la Terre, de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, on dit quelque chose sur la Terre. On a dit « Bereshit bara Elokim et ha-shamayim et ha-aretz ». La dernière opinion qu'on a vue, vous vous souvenez, Rav Shimon bar Yochai qui dit « Je comprends pas pourquoi ils discutent, ils ont été créés en même temps ». Bon, alors bon, ils ont été créés en même temps. Créés en même temps, ils ont la même valeur, etc. Maintenant, pourquoi ça diverge? Pourquoi tout à coup on nous parle de la Terre et on dit la Terre, elle était Tohu Vavohu. Et le ciel? Shamaï. Bon, c'est pas Tohu Vavohu, le ciel. D'accord? Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose à dire de la Terre. Il n'y a rien à dire du sol, du ciel, semble-t-il. On n'en dit rien. On va en parler peut-être après, mais pour l'instant, on n'en a rien dit. Dans ce verset, on dit rien. On va parler de Rocher, de Rome, etc. On parle pas du soleil, on parle pas du ciel. Alors elle dit, elle le sait. Elle voit. Moi j'ai été chassé je suis chassé du palais, ou bien moi je dois travailler pour manger. Les deux situations. Et puis d'un autre côté, il y a toujours l'autre qui est ou bien nourri par le palais, ou bien qui reste dans le palais. Donc il y a des créatures qui sont en haut et voilà, elles sont ce qu'elles sont. Et la Terre, justement, le problème, c'est que la Terre, elle dit, moi je dois travailler, bien je suis dehors, donc faut que je me débrouille, quoi, aussi. Faut aussi travailler. Mais donc je crois que c'est ça le tohu vavohu, si vous voulez, c'est que le Midrash, je veux dire ici, il y a un élément totalement arbitraire entre le haut et le bas. Alors, nous, on va expliquer que cet arbitraire-là, c'est pas que il y en a un qui est favorisé par rapport à l'autre, c'est aussi il y en a un qui est favorisé par rapport à l'autre, c'est pas celui qu'on croit, mais je crois plutôt dire qu'il faut plutôt dire qu'il y en a aucun qui est favorisé l'un par rapport à l'autre. C'est le problème, il existe une différence, et là, c'est un peu dans le sens de ce que vous avez dit, c'est que voilà, chacun a tout à coup un rôle différent. Mais de prime abord, on a l'impression que le rôle des tartonymes est... Donc les tartonymes sont... Ils sont désavantagés par rapport. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut travailler? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être au palais en permanence? Et c'est ça la grande question. La question de la création, c'est ça. C'est un... Pourquoi la création? Pourquoi il faut créer? Quel est le but, en fait? Ben, tout à coup, Hachem va faire apparaître une différence. Il faut faire apparaître une différence parce que s'il n'y a pas de différence, il ne se passe rien. Il faut mettre une tension, en fait. Il va y avoir une tension entre le haut et le bas. Parce qu'ils sont différents. La différence va établir une tension, c'est-à-dire il va y avoir de la vie possible, en quelque sorte. Et après, il faut comprendre que, par exemple, mais si dans le monde d'en bas, ceux qui sont dans le monde d'en bas, ils sont mortels. Mais quand on est mortel, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et donc, on va cesser de dire la louange d'Hachem. Alors que dans le monde d'en haut, ils ne cessent pas de dire la louange d'Hachem. Et nous, on n'est pas toujours en situation. Puisqu'un jour, on va mourir. Et à ce moment-là, par métier, les morts, ils ne disent pas la louange d'Hachem. Donc on pourrait penser que bon ben finalement il y a si le monde a été créé pour dire la louange d'Hachem, alors d'un côté il y a une louange permanente et de l'autre côté il y a une louange qui est contingente finalement. Et bien sûr qu'elles n'ont pas la même valeur. Non, parce que les louanges de ceux qui sont en bas, ce sont des louanges. Il va falloir fabriquer en quelque sorte. Il va falloir s'élever pour dire des louanges à différents niveaux, directement. Alors, on peut dire que dans les êtres humains, il y a aussi des différences selon les naissances. On voit très bien que quand Yitzhak et Rivka prient tous les deux pour avoir des enfants, quand beaucoup ils écoutent la tfila d'Yitzhak, parce qu'il est tzaddik ben tzaddik, et qu'il n'écoute pas la tfila de Rivka, parce qu'elle est tzaddik et matracha. Et nous, on est scandalisés. Où est-ce qu'on a plus de mérite, qu'on est tzaddik ben racha ou tzaddik ben tzaddik? Qui est-ce qui doit s'arracher à quelque chose? C'est le tzaddik ben racha. Elle a fait beaucoup plus de travail. Yitzhak Avinu, lui, il n'a qu'à suivre ce que son père lui a montré. Il sait comment on prie. Ce n'est pas une nouveauté pour lui. Il va prier d'une autre manière, mais c'est... D'accord, ce n'est pas une nouveauté. Elle n'a jamais vu Laban prier. Elle n'a pas vu son père Betuel ni son frère Laban prier. Au contraire, c'est des crapules. Elle s'est arrachée à tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas plus de mérite? Pourquoi c'est pas plus... Cette fille-là, à elle qu'on entend, là aussi il y a quelque chose d'insupportable. Quoi, lui, il est plus de la famille, alors on entend plus sa famille et sa fille-là, lui, à Yitzhak Avinu. Dans la fille-là, il y a quelque chose. Donc, oui, il a un certain avantage. Bon, la fille-là est plus efficace, disons peut-être. Le mérite, son mérite à elle est peut-être bien plus grand, on ne sait rien. Mais l'efficacité, elle est du côté de quelque chose qu'on a déjà mis en place, c'est déjà plus facile. Et donc c'est plus efficace. Il y a une notion dans la tfila du matin, dans la prière du matin, on demande dans les brachot, on demande à Hachem « Shetargi leinu betoratecha ». On demande à Hachem « Entraîne-nous dans la Torah ». Targi leinu. Habitue-nous, aide-nous à entraîne-nous, que ce soit un an. C'est très dangereux, ça. Il y a un risque que tout devienne automatique, quoi. Si on demande que ça devienne... Pas du tout, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'utiliser le... Justement, c'est la situation d'Yitzhak Avinu, c'est très clair. Il faut utiliser le... Mettre, on peut presque dire la nature, l'habitude, il faut l'utiliser, mais pas pour se laisser dominer par l'habitude, mais utiliser l'habitude. Utiliser. Il va utiliser, Yitzhak Avinu va utiliser ce qu'il a appris de son père. Et ça va le mettre, il aura quelques longueurs d'avance. Elle a peut-être plus de mérite, mais lui, néanmoins, il est plus en avance. Et donc, du point de vue de l'efficacité, c'est un fridouche. Mais la prière, elle est plus entendue par celui qui a l'habitude. C'est pour ça que, on nous dit que celui qui est kovea tfilato, celui qui fixe un endroit toujours le même pour prier. Exemple, si on prie chez soi, il est toujours au même endroit. Là, la Torah dit, la Gemara dit, celui qui fait ça, est loke Avraham beozro. Le Dieu d'Abraham vient l'aider. Pourquoi le Dieu d'Abraham et pas celui d'Yitzhak et d'Yaakov? Non, le Dieu d'Abraham, justement. Parce que, quelque part, c'est Abraham qui a commencé. Le Dieu d'Abraham qui justement aide, puisque lui il a été capable d'inventer et il s'est entraîné, d'accord, donc c'est lui qui a inventé la notion de répétition, etc. Il a ensuite transmis à ses enfants, quoi. Dans la transmission, il a transmis des secrets de fabrication en quelque sorte, et donc il a mis les enfants, il a avantagé en quelque sorte Yitzhak Avinu, puisqu'il lui a donné les secrets. Et donc Yitzhak Avinu, il va commencer là où Abraham a terminé, si on peut parler comme ça.
Excusez-moi, Rav, c'est quelque chose qui me trouble assez, cela, parce que ici, en définitive, c'est Hachem qui est le juge de paix en la matière et qui va, lui, évaluer l'efficacité ou non. Qu'est-ce que voudrait dire, d'ailleurs, l'efficacité d'une prière? Ça, c'est un point assez complexe pour en déterminer ensuite, dire bah ou non, mais lui, comme il a l'habitude, il a derrière lui tout un héritage qui lui permet d'avoir de l'avance par rapport donc aux autres. Alors là, ça va être plus efficace. Mais c'est quoi cette efficacité, puisque c'est la louange d'Hachem, et cette louange là, bah Hachem, il décide si si elle est efficace ou moins efficace, c'est troublant.
Justement, la Torah nous dévoile, dans ce cas-là, que en ce qui concerne la prière, dans certaines, en tout cas les demandes, si on sait mieux demander, d'une certaine manière, c'est plus efficace. Si on a une tradition pour savoir comment demander, c'est ce dont Yitzhak Avinu a bénéficié, il savait comment demander. Et donc c'est plus efficace. Alors c'est scandaleux parce que nous on est toujours en train de mesurer les mérites, mais peut-être que ça fonctionne pas selon le mérite. Il y a des situations, bien sûr, que celui qui a, qui sait faire, alors même s'il a moins de mérite parce que il se trouve que on lui a appris des choses plus tôt, etc. Ok, alors bon, c'est plus efficace. C'est comme ça. Il y a une réalité. La réalité, c'est que c'est plus efficace.
Alors comment vous interprétez? Vous interpréteriez ou commenterez plutôt lorsque Hachem dit écoutez, en définitive, vous ne savez pas ce que je vais faire. Je donnerai ma grâce à celui à qui je veux donner ma grâce. Voilà.
C'est ça, oui. Donc ça va encore une fois. C'est pas ce que toi, mon cher Rabbeinu, tu penses. D'accord? C'est, voilà, mais même si toi tu demandes, mais bon, il y a quelque chose qui est, en ce qui concerne la grâce, ça fonctionne pas selon critères que toi tu peux imaginer. C'est, moi j'ai ma manière d'évaluer les choses dans le domaine de la grâce.
Oui, donc.
Anoti et Asher Achon, c'est moi qui déciderai.
Donc vous êtes d'accord.
Même chose ici. Pardon?
Donc vous êtes d'accord avec le fait qu'il est, comme il aurait difficile de dire, ben non, lui comme il est tzadik ben tzadik, et qu'il a l'habitude, et qu'il a la technique, et qu'il la pratique, alors lui il va être plus efficace, et donc Hachem va...
Parce que la grâce, c'est justement faire quelque chose de totalement gratuit, comme son nom l'indique. La grâce, c'est gratuit. Dans le gratuit, c'est moi qui décide. Tu veux pas, ça correspond à rien. La prière, c'est pas gratuit. La prière, c'est quelque chose qui a des règles bien précises, et il faut savoir comment prier. D'accord, on décide. Pourquoi est-ce que les Chachamim nous ont dit comment prier dans la Amida? Pourquoi il faut prier dans cet ordre-là plutôt qu'un autre ordre? Alors pourquoi est-ce qu'il faut d'abord dire la louange, après les demandes, après de nouveau la louange? Peut-être pourquoi on ne dit pas, peut-être que c'est... Est-ce que c'est pas de la chutzpah de dire la louange d'Hachem? Qui tu es pour dire la louange? Non, c'est que louange, c'est comme si on évaluait quelque chose. Ah, très bien, très bien, très bien. Quel droit tu dis très bien? Quoi tu dis que c'est bien? Que t'en sais? Qui es-tu pour dire ça? Tu vois, c'est tout un problème. Tout un problème. Savoir comment on situe. Chaque chose a ses règles précises. La grâce que vous avez soulevée, le problème de la grâce que vous avez soulevé, c'est la gratuité. Et dans la gratuité de la grâce, si vous voulez, Hachem dit ça correspond à aucun des critères que tu connais. Tu as beau être mon cher Rabbeinu, tu connais énormément de choses, tu demandes, etc., mais moi, je ferai ce que je veux là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de la prière. Non, ta prière, parce que si quelqu'un sait prier, c'est bien mon cher Rabbeinu, ben non, c'est pas selon ta prière. Toi, tu voudrais que ça soit comme ça, non, je ferai ce que je veux.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans ces cas-là, cette efficacité dont vous parlez est peut-être liée en partie au fait que la prière dont on parle peut-être en ce moment, c'est cette prière collective qui, avec le minima du minyan. Et ici, il y a peut-être efficacité puisque on ne prie pas pour soi, mais on prie pour le collectif.
Enfin, on ne prie jamais pour soi parce que la mida est au pluriel. On prie jamais que pour soi. Enfin, on peut prier pour soi, mais la prière qui a été mise en forme, c'est toujours une prière pour le monde entier. On prie pour le monde. On prie pas pour soi. La Amida est tout au pluriel, clairement. Donc ici, je crois que ce que je comprends ici pour l'instant de ce Midrash, c'est que la terre, elle se désole d'une certaine manière, elle trouve une injustice et il n'y a pas de réponse. Bon, pas de réponse. Ni de la façon dont Rabbi Abao le présente, ni dans la façon dont Rabbi Yehuda Bar Simon le présente, il n'y a pas de réponse. La terre, effectivement, elle est désolée. Et parce que, comme que ce soit les Nyonim, les Tarponim, etc., tout ça, voilà, on comprend pas. Mais la non-compréhension, elle va cesser dès lors qu'on aura admis que chacun a un rôle bien précis et que, au fond, si on y regarde bien de plus près, en quelque sorte, le rôle qui est assigné au Tartonim est un rôle plus important que le rôle qui est assigné au Elyonim. Les Elyonim sont ce qu'ils sont, mais ils ne peuvent pas s'améliorer. Ils ne peuvent pas gravir des échelons. Ils sont ce qu'ils sont. Bien sûr qu'ils sont les anges de Dieu. Ils sont les Sraphim, les autres Ophanim, etc. Chacun est à son niveau. Il y a des anges de différents niveaux, mais ils restent au niveau qui est le leur. Ils ne peuvent pas changer. Tandis que les hommes, eux, sont faits pour grandir, ils sont faits pour passer d'une étape à l'autre, et du coup introduire cette notion de Nama de Kisufa, du pain de la honte. C'est-à-dire, tout à coup, les êtres humains, eux, ils sont capables de recevoir ce qu'Hachem veut leur donner en se qualifiant. Bien sûr que ça reste toujours un cadeau d'Hachem parce que c'est en commune mesure et qu'à la limite, même tout ce que nous faisons, nous ne pouvons le faire que parce qu'Hachem nous donne la vie, et nous donne l'énergie et l'intelligence, etc., de pouvoir le faire. D'accord? C'est vrai. Mais Hachem dit, bon, faites les choses. Vous faites les choses et il y aura une conséquence de ce que vous avez fait. Et donc, d'une certaine manière, ça va changer. Ce que vous allez le recevoir comme salaire. Donc, il n'y aura plus ce problème de fondamental de Nama de Kisufa. Aïe, d'un autre côté, il y a la mort. Oui, c'est vrai, il y a la mort. Et là, du coup, on peut se demander, alors, c'est quoi l'avantage, si vous voulez, c'est plus en termes de travail, par opposition à ceux qui n'ont pas besoin de travailler, mais l'idée, c'est être à l'extérieur au lieu de l'intérieur. D'accord, les Lyonis sont à l'intérieur du palais. Et les Tartanim, ils sont à l'extérieur. Chassés, ils sont à l'extérieur. On est à l'extérieur du palais. Et par conséquent, si on est à l'extérieur du palais, alors on peut aider à construire le palais. On n'est pas simplement dans le palais et on n'en sort pas. Non, on peut éventuellement entrer dans le palais. Mais il va falloir le ticket d'entrée, en quelque sorte. Alors, ce ticket d'entrée... Le temps pour entrer dans le palais, c'est un temps limité. Il y a un certain temps durant lequel il y aura des choses à faire, et à ce moment-là, tu pourras entrer dans le palais. Mais sinon, et même, voilà, tu seras entré éventuellement dans le palais. Après, pour nous, le fait de mourir, il faudra comprendre que c'est vrai que quand on est mort, on ne dit pas la louange de la même manière qu'on l'a dit que quand on est vivant. Il n'empêche que puisque pour nous, la mort, c'est pas la fin de tout, au contraire, c'est un changement de lieu, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que peut-être on entre dans un lieu où on va dire la louange, mais d'une autre manière. La louange du type peut-être celle des Elyonim, sauf que nous, cette louange-là, on aura en quelque sorte appris à la dire, on aura inventé la louange, alors que les Elyonim, peut-être, ils n'ont rien inventé. Nous, on va inventer des louanges, parce que nous, on aura les louanges que David Amelech nous a enseignées, on aura les louanges que les Paitanim, etc. Ce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné, à dire que Moshe Rabbeinu nous a enseigné à dire Akel, Agadol, Agibor, Vehanora. Il nous a enseigné ça. Et c'est pour ça qu'on se permet de le dire, d'ailleurs.
Et nous avons Triatametim, les Elyonim, ils n'ont pas.
Oui, parce que, justement, Triatametim, c'est encore un supplément de vie pendant un moment. Mais après, ça finit. Après, Triatametim, c'est... On va entrer dans un autre monde, si vous voulez, et ça se change complètement. On va entrer, je sais pas, pendant le 7e millénaire, type Shabbat, et puis après, il y aura encore d'autres millénaires jusqu'au 10e, puis ensuite tout recommence. Mais bon, ça, c'est des choses que je ne connais pas. Pas bien, mais bon, c'est juste, il y aura le triatametim. Donc, même après la mort, il y aura une possibilité. Mais même à la limite, au-delà du problème de la triatametim, il y aura probablement une autre façon de dire les louanges d'Hachem. Mais on aura l'avantage de venir avec des louanges qu'on aura fabriquées nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes, ça veut dire les êtres humains auront fabriqué. David Amelech nous aura enseigné, Moshe Rabbeinu d'abord, David Amelech, etc., tous ceux qui ont enseigné à dire la louange d'Hachem. Et on aura peut-être inventé par nous-mêmes aussi des louanges d'Hachem. On aura des situations dans lesquelles on aura su dire la louange d'Hachem. Et on s'entraîne à ça. On s'entraîne, on apprend à remercier Hachem pour tout, etc. Dire la louange pour tout ce qu'il fait tous les jours pour nous et tout. Etc. Donc c'est des choses que probablement des choses qui n'existent pas vraiment dans le, ou en tout cas pas de la même manière dans le monde des Elionim. Mais bien sûr, voilà, c'est tout ça, ça va prendre du sens après coup, quand on aura compris, quand on aura intégré ça, quand on sera sorti de cet état de tohu vavohu. D'accord, il y a le tohu vavohu, c'est le scandale de ben, tout n'est pas, toutes les choses sont pas égales, il y a tout à coup des différences. Mais c'est ça la différence entre les hommes et les femmes, la différence entre entre les Bnei Israël et les comment dire, les, ceux qui sont Bnei Brit, Ben Brit et Sheino Ben Brit, ou les gens qui sont pas dans l'alliance, ceux qui sont dans l'alliance, etc. Donc si vous voulez, c'est ça le grand limoud de ce Midrash. Et le couronnement, peut-être pas le couronnement, mais en tout cas, l'autre façon de voir, c'est celle de ce Rabbi Tanchuma par lequel on a un peu commencé, c'est que, quelque part, du coup, la Terre, maintenant, elle va donner un autre sens. Pourquoi elle est effondrée, etc. Pas parce qu'il y a une différence de entre Yonim et Tartonim, mais parce que tout à coup, il y a comme quelque chose d'absurde, que la nourrice, elle va payer pour les fautes de nourrisson devenu grand, à quoi elle va payer. Mais ça veut dire quoi? Ultimement, ça veut quand même dire que ce prince, cet homme, en vérité, il va bouleverser le monde entier. Toute la terre va dépendre de sa conduite. Bon. Si lui se conduit d'une certaine manière, ben, le monde va être changé. Et tout va dépendre effectivement de sa conduite, et les choses vont être affectées. Même ce qui lui aura donné, tout donné en quelque sorte, tout ça, ça va être affecté par la conduite de l'homme. Donc finalement, ce qui est extrêmement troublant pour la Terre, pourquoi elle est complètement bouleversée, c'est que tout à coup il y a un être qu'elle connaît comme étant dans un berceau, elle voit déjà que ce petit bonhomme-là qui est dans son berceau, il va bouleverser l'ordre du monde. Elle va devoir payer pour ce que lui, il a fait. La nature, si vous voulez, elle va être bouleversée, chamboulée, punie, en quelque sorte, au sens où elle va pas pouvoir donner ce qu'elle est capable de donner parce que les hommes se conduisent mal. Bon, vous pouvez le lire à toutes sortes de niveaux, écologiques ou autres. Bon, la conduite des hommes va entraîner un bouleversement du monde. Et alors que le monde n'y est pour rien, pourquoi le monde serait-il affecté? Pourquoi est-ce que tout est chamboulé, etc.? Pourquoi le monde est-il détruit? Parce que les hommes se conduisent mal. Le Maboul, c'est bien les hommes qui sont mal conduits, qui ont réussi même à changer le fonctionnement du monde. Ils ont fait des transformations incroyables du monde. Et ça a amené au Maboul. Le monde a été détruit. Donc les hommes sont capables de détruire le monde. Et là, la Terre, elle a de quoi être bouleversée. Pourquoi est-ce que moi je vais être puni pour la conduite des hommes? Qui c'est ce petit prince là qui vient et qui va tout chambouler? C'est une autre question, c'est un autre type de chose. C'est-à-dire, mais c'est tout au coup la Terre qui voit les choses. C'est pas qu'elle ressent les choses, ressent le problème de la différence, d'accord? Et fondamental, la différence, c'est la vie, quoi, finalement. Il faut déséquilibrer un petit peu les choses pour que la vie commence. Pour qu'il y ait une tension et que la vie commence. Mais là, elle dit, mais attention, c'est énorme ici. On va être puni va être détruit par ce petit prince là qui est dans son berceau. Je vois ce qui va devenir. Il va nous chambouler complètement la vie. Effectivement, cette nouveauté là qui a de quoi mettre la terre dans tous ses états, si on peut parler comme ça. Voilà ce que je pense qu'on peut. Je voulais dire sur ce midrash là. Voilà. Une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Je vois des initiales qui prennent des visages. Les petits ronds là avec des initiales. Des initiales qui prennent des visages. Ok, je vous salue tous bien bas.
Merci beaucoup.
Shabbat shalom.
Merci beaucoup. Shabbat shalom.